un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un débat qui a cours au sein même des mouvements féministes et dont les termes sont relativement récents. Il oppose les abolitionnistes et les réglementaristes. D'un côté, on l'appelle prostitution et on la présente comme un viol tarifé qui, même avec le consentement de la personne, reproduit l'exercice d'une violence patriarcale, d'une domination masculine et s'inscrit dans une société sexiste par essence qui suppose que le corps des femmes peut se louer comme un bien meuble. La prostitution reposerait aussi sur l'idée que la sexualité des hommes est débordante et incontrôlable, tandis que celle des femmes est passive et intéressée. Qu'elles sont soumises à des contraintes économiques qui les poussent à la prostitution et sont généralement dans un état de dissociation émotionnelle qui les empêche de penser à ce qu'elles font. De l'autre côté, on l'appelle le travail du sexe. On suppose que le corps des femmes leur appartient et qu'elles peuvent en disposer comme bon leur semble et que ce travail n'est pas si différent de celui des masseurs, des esthéticiens ou des mères porteuses. Qu'il y a une forme de paternalisme à dicter aux femmes ce qu'elles devraient en faire et de morale sous-jacente. Les réglementaristes, comme leur nom l'indique, demandent à ce que ce travail du sexe soit réglementé, autorisé, contractualisé, pour éviter les violences, les abus et les exploitations des femmes, qu'il convient d'ailleurs de nommer plutôt esclavage ou viol, si elles n'y consentent pas. Entre ces deux oppositions radicales, il y a les récits que nous collectons année après année pour que vous puissiez vous faire votre avis, même si nous ne maîtrisons pas toujours le réel de ce que les femmes nous racontent. Tout de suite donc, un témoignage à méditer recueilli par Valérie Borst et intitulé « La vie ordinaire » de Mathilde Escorte.
Je suis Mathilde Avril, j'ai 38 ans, je suis native de Lyon et lorsque j'avais 2-3 ans, mes parents sont partis en Bourgogne, dans le Mâconnais. J'ai eu une enfance absolument ordinaire, aimante, avec des parents qui sont restés mariés toute leur vie. Et puis, à l'âge de 25 ans, après avoir vécu 5 années avec un homme, je suis venue m'installer à Lyon suite à notre rupture pour commencer un nouveau travail. J'étais responsable commerciale dans un journal. J'arrive sur Lyon, j'ai 25 ans. J'ai vécu comme ça, comme n'importe qui dans une nouvelle ville, à faire des rencontres via des sorties, via des sites internet. Et puis, au bout de 4 ans, je me suis rendu compte finalement que les relations n'aboutissaient jamais. Les hommes m'ont toujours invité au resto, payé des verres en boîte de nuit, me compter fleurettes et me dire que j'étais la personne la plus extraordinaire du monde. Finalement, le lendemain, j'existais plus. Et je me suis dit, en fait, ça fait 4 ans que t'es célibataire, que le lendemain, tu pleures sur ton canapé en te disant pourquoi il me rappelle pas, à me remettre sans cesse en question sur moi-même, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Bah, je me sentais consommée par les hommes comme un objet gratuit, jetable. Je me suis dit, finalement, puisque les hommes ne cherchent que du sexe, je vais pousser le bouchon un petit peu plus loin et je vais passer au mode de rencontre tarifé. Donc un soir, dans mon petit appart de Villeurbanne, je tape sur Google « Escorte Lyon ». Une dizaine de sites apparaissent. Donc je commence à écumer les annonces. Voilà le profil des femmes qui avaient toutes l'air d'être des mannequins, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Je fais 1m64, 60 kilos, j'ai un physique lambda, on va dire. Et puis, je lis les annonces et elles parlent de choses que je ne connais pas, des abréviations style GFE, BDSM, etc. Voilà, ce n'est pas mon milieu. Moi, j'ai toujours eu une vie ordinaire d'une femme qui a des amoureux, qui a des vies de couple. Donc, je me dis, en fait, c'est pas pour moi. Mais ça reste quand même un petit peu dans ma tête et je me dis, j'ai quand même envie de savoir qui sont ces hommes qui payent des filles et ce qu'ils recherchent. Donc je crée une annonce, je me crée une adresse email, Mathilda, escorte, voilà, je me choisis un pseudonyme. À l'époque, je demandais 250 euros pour une heure de rendez-vous. Donc je me suis alignée au tarif le plus haut que j'ai trouvé. Et puis je me suis dit, eh bien ce tarif-là, ça trierait un petit peu les rendez-vous et voilà. L'annonce est publiée quelques heures à peine après et là je suis envahie d'emails avec des hommes tous courtois. Bonjour mademoiselle, je découvre votre annonce, j'aimerais vraiment vous rencontrer. Et puis au milieu de tout ça, il y a des messages un petit peu plus courts où c'est juste un mail, tu es disponible, sans bonjour, sans présentation. Ou alors avec effectivement quelques demandes de fantasmes. J'aimerais beaucoup que tu montes dans ma voiture, place Bellecour, et que l'on roule autour de la place et que tu me pratiques une fellation pendant que nous roulons. Voilà, des choses où je me dis, oui, alors bon, en public, c'est étrange, mais voilà, moi, je suis pas du tout choquée par et les pratiques et les fantasmes. Je pars toujours du principe que si c'est d'un commun accord, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de jugement à avoir sur ce que l'on aime et sur ce que les autres désirent. Et quand j'ai reçu tous ces emails, je me suis dit, oh là là, Mathilde, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te rends compte, tu envisages de te prostituer par déception des relations humaines? C'est triste d'en arriver là. Donc j'ai répondu à aucun email. Et puis quelques jours après, un samedi soir, je suis allée boire un verre avec une amie dans un établissement lyonnais. Et là, je lui dis, écoute, voilà, cette semaine, j'ai décidé de m'inscrire sur un site d'escorting. J'arrive pas du tout à passer le cap. Et elle me dit, eh bien, écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Ça fait plusieurs années que je suis moi aussi escorte. Et là, je tombe des nues parce que en fait, c'était une nana comme moi, qui avait un job, qui avait une vie complètement lambda. Et elle me dit, et puis tu sais, notre autre copine, eh bien, en fait, quand elle te dit qu'elle fait des séances photos pour faire du mannequinat, c'est pas du tout ça, elle aussi, elle est escorte. Tout d'un coup, le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui connaît le milieu, qui a ce type de rendez-vous depuis plusieurs années, ça désinhibe un petit peu. Et j'ai suivi les conseils de mon amie, j'ai acheté une autre puce de téléphone, j'ai fait une annonce un petit peu plus élaborée, j'ai décidé de me spécialiser entre guillemets dans les rencontres, ce que l'on appelle GFE, c'est-à-dire Girlfriend Experience, le rôle de la petite amie. Donc je ne propose rien d'extravagant d'un point de vue sexuel, je suis voilà, la petite amie pendant une durée de temps. Le lendemain, mon téléphone sonne, je ferme la porte de mon bureau de responsable commercial et je réponds à ce fameux Jérémy qui me dit « Voilà, je cherche rien de particulier à part passer un bon moment ». Et donc toute la journée, je me stresse. Je crois comme lorsqu'on va à un premier rendez-vous avec quelqu'un. Hein, est-ce que je vais lui plaire? Comment je m'habille? Voilà, donc je rentre chez moi. Je vais rendez-vous à 20h, me semble-t-il. Moi, je me suis toujours dit, de toute façon, si les hommes payent, c'est parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils sont forcément sales, dégueulasses, irrespectueux, il va sûrement lui manquer des dents, voilà. Je frappe à son domicile et un jeune homme m'ouvre la porte, très mignon, très très mignon, musclé, beau gosse, sympa, Là, je me suis dit, mais pourquoi ? Il y a forcément quelque chose. Donc on s'installe sur son canapé, on boit un verre, il me propose un whisky, j'aime pas ça, j'accepte quand même, je me dis que ça va me détendre. Je lui dis absolument pas que c'est mon premier rendez-vous, je fais genre je suis très à l'aise, donc j'essaye d'entamer la conversation comme je peux, tout en me disant mais en fait qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire. Puis il est très sympa, très courtois, il me raconte que il a une vie très très occupée, qu'il a pas le temps de faire des rencontres et que de temps en temps, il va à la facilité. On discute un petit peu de sport, d'hygiène de vie, de ci, de là. Je sais pas si c'est à moi de prendre les devants, si je dois lui poser la main sur la cuisse quand il me parle, si je dois relever un petit peu ma jupe pour lui montrer que j'ai des bas, je sais pas trop comment faire. Et puis c'est lui qui prend les devants, voilà, naturellement, un baiser, il m'entraîne dans sa chambre et puis... voilà, quelques préliminaires, missionnaires... Merci, au revoir. Bon, voilà, une relation sexuelle, comme j'en ai eu 100 fois dans ma vie, lorsque je rencontre un mec sur Tinder. Voilà, je repars de chez lui avec une enveloppe et en me disant, je suis juste finalement un petit peu plus riche et peut-être au fil du temps un petit peu moins déçue. C'est pas ces 250 euros qui font de moi une pute, qui font de moi une fille paumée. Je reste Mathilde, qui il y a 2 heures était en train de bosser au journal. Et en fait, je suis exactement la même personne. Voilà, ce premier rendez-vous. Et puis, je suis allée me coucher. Et le lendemain matin, je suis retournée au bureau. Après ce premier rendez-vous, j'ai le sentiment que ça s'est enchaîné vraiment très vite. Les clients connaissent les filles qui sont inscrites et puis vous avez une petite bannière, hein, comme lorsque vous mettez une annonce sur Le Bon Coin, nouveauté. Donc voilà, comme je suis la nouveauté du site internet, je suis très sollicitée et je vais à la rencontre des hommes, plusieurs soirs par semaine. Voilà, quand je m'ennuie, quand je trouve qu'il y a une demande sympa, que le mec est sympa, voilà, je me fixe aucune règle, si ce n'est faire uniquement ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Je le fais pas la nuit parce que c'est pareil, finalement, moi, je suis comme n'importe qui, hein. Quand je rentre du boulot, que j'ai rien de prévu, je me démaquille, je me mets en pige et je regarde la télé. J'ai pas du tout envie de me remaquiller et de me faire un brushing à 22h pour une heure de rendez-vous. Il y a le temps de préparation, il faut toujours être clean, avoir la peau douce, le make-up fait, le brushing, les ongles, la tenue, le trajet. Une heure de rendez-vous, ça vous prend 3 heures de votre temps. Donc non, c'est soit j'ai un rendez-vous de bouquet et quand je sors du boulot, j'enchaîne. Mais sinon, je me déplace pas du tout au milieu de la nuit pour aller rencontrer quelqu'un. Non. Je sais pas, je suis peut-être un peu trop feignante pour ça. Donc mon téléphone sonne quand même très régulièrement et là j'ai le sentiment, je crois pour la première fois de ma vie, de me sentir désirée, désirable, importante. Je me sens un petit peu comme une starlette. Et pour la première fois, j'ai l'impression que les hommes, justement, ne m'utilisent pas. J'ai l'impression d'être pour eux, quelque part, une espèce de déesse. Et voilà, d'arriver soit dans les hôtels, soit à leur domicile. J'ai jamais reçu chez moi. Et j'avais ce sentiment, je me revois, voilà, de fouler avec mes escarpins, les halls d'hôtels des 4 et des 5 étoiles que je connaissais pas. Je connaissais pas les hôtels de Lyon, hein. On va pas à l'hôtel quand on a un appartement. Donc je découvrais le côté le Sofitel et tout ça, le Hilton. Et c'est vrai que j'ai eu une période les premiers mois où je crois que je me la racontais un petit peu, très honnêtement, où j'avais le sentiment de « Oh là là, je suis une femme désirable et les hommes me payent pour être avec moi. Les hommes me payent pour être avec moi. » Et puis, j'ai eu une période où j'ai flambé. Mon salaire mensuel, tout d'un coup, était mon salaire hebdomadaire. Donc, comme quelqu'un qui, tout d'un coup, a plus d'argent, bah, les premiers temps, voilà, vous faites ce que vous pouviez pas faire. Vous achetez des sacs à main de luxe, des chaussures de luxe. Je sortais du journal à 17h, les transports en commun sont bondés. Ça m'arrivait très régulièrement de rentrer chez moi en taxi, par exemple. Parce que j'étais plus à 20 euros près, parce que, voilà, à l'époque au journal, je devais gagner 1600, 1700 euros, donc c'est un salaire correct, hein. Mais là, cet argent, bah, en fait, je le dépensais aussi vite que je le gagnais. Et du coup, je poussais de rien. J'ai une voiture qui a 10 ans, je suis locataire. Je continue toujours à dépenser l'argent que je gagne en sortie avec mes copines. Ça, c'est mon plus grand plaisir, en fait. J'ai décidé que j'aurais le contrôle de ma vie, de mes rencontres et de ma liberté. Moi, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Je suis hyper passionnée d'entrepreneuriat. Donc, chaque homme est quelque part un nouveau secteur d'activité que je rencontre. Et ça me passionne. Le lundi, je vais être avec un ingénieur sous-marinier. Le mercredi, je vais rencontrer un promoteur immobilier. Et puis ici, et puis... Et j'adore découvrir toutes ces professions, toutes ces personnalités. Et grâce à ces rendez-vous, en fait, je me suis beaucoup cultivée, beaucoup. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup appris de choses dans les chambres d'hôtel à Lyon. Parce que moi, les hommes me parlent énormément, hein, avant l'aspect sexuel. Sur une heure de rendez-vous, il va y avoir 40 minutes de discussion et 15 minutes de sexe. Et donc, à chaque rendez-vous, il y a toujours le moment où il y a une relation sexuelle. Ce qu'ils veulent, essentiellement, donc, c'est ne pas avoir le sentiment de payer. C'est bête, hein, mais ils commandent une prostituée, mais ils ne veulent surtout pas une pute. Il ne faut pas que je sois vulgaire, il ne faut pas... presque il faudrait que je ne voie qu'eux et qu'ils aient le sentiment qu'ils sont ma première rencontre ou voilà. Ils apprécient le fait que je sois occasionnelle, que j'ai une activité en parallèle, que ce soit une rencontre amant-maîtresse, parce que bah la plupart sont mariés. Et que lorsque c'est une rencontre tarifée, il n'y a pas tous les inconvénients de la maîtresse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression de tromper leur femme. Parce qu'il n'y a pas de sentiment. Et puis aussi, il faut savoir que les hommes, ce qu'ils recherchent surtout, c'est mon plaisir. Et même s'ils payent, je crois que c'est pour eux beaucoup plus jouissif de se dire « j'ai fait jouir ma partenaire » et c'est ce qu'ils recherchent énormément. Voilà, j'ai découvert que les hommes étaient passionnés par le cunnilingus, par exemple. C'est quelque chose qu'ils aiment, qu'ils veulent pratiquer à chaque rendez-vous. Oui. Parfois, je trouve ça hyper agréable. Parfois, je trouve ça long. Alors, souvent, je me dis, oh là là, quand même, il a payé 300 balles pour ça. Donc, je simule. pour passer à autre chose. Parfois, je prends vraiment du plaisir, mais ça marche pas toujours. Mais on leur fait souvent croire que ça marche. À cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de sollicitations de cinquantenaires que de trentenaires. Donc j'avais 28 ans. Voilà, je me disais comment je vais faire pour quelque part avoir une relation sexuelle avec un homme qui a sans doute l'âge de mon papa. Donc je me suis dit, il faut que je passe le cap. Et donc, j'ai accepté un rendez-vous avec un homme qui était absolument charmant au téléphone, qui se décrivait, voilà, comme dynamique, sportif, cadre supérieur. Et donc, je suis allée à sa rencontre. Et effectivement, c'était un homme très charmant. Eh bien, c'est là où j'ai pris conscience, finalement, que les hommes plus matures étaient plus respectueux, plus attentionnés. Et que le plaisir de la femme était plus important que leur plaisir à eux. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai eu cette période où je me prenais un petit peu pour une sarlette, parce que effectivement, ils ont affaire à une femme qui a 20 ans de moins qu'eux, et donc ils sont quand même hyper flattés que vous vous intéressiez à eux, etc. Et donc ils sont beaucoup plus attentionnés. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'étais un petit peu surprise. Je me rappelle très bien, c'était au Novotel de Gerland, sur Lyon. Un quarantenaire plus, très sympa, très beau gosse, donc de passage à Lyon. Il avait fait monter une bouteille de champagne avant même mon arrivée, c'est souvent ça. Et on boit un verre, on échange, il me raconte sa vie, c'est pareil, lui, il était organisateur de combat de catch. Et donc, je m'intéresse un petit peu. Voilà, donc on passe un super moment. Et puis, le rapport intime arrive. Donc, des plus classiques au départ. Des baisers, des caresses, voilà. Et là, il me dit, est-ce que tu pourrais me pisser dessus ? Donc je suis un peu surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je sais que c'est des pratiques qui existent, mais c'est voilà. Donc je lui dis simplement que je n'ai pas envie d'uriner. Il me propose de reprendre du champagne, que ça viendra peut-être. Je refuse et puis voilà, ça se termine comme ça en missionnaire, en des plus classiques. On n'est pas du tout revenu l'un et l'autre sur sa demande et. Je pense qu'il a dû se dire, je tente, peut-être que ça peut marcher, elle va peut-être dire oui, puis non, et voilà. Donc j'ai commencé, j'avais 28 ans, j'ai arrêté à l'âge de 31, me semble-t-il. J'ai fait le point en me disant que peut-être il faudrait quand même que je trouve un amoureux, que je construise une vie de couple, que c'était sympa ces quelques années de strass et de paillettes, mais que en fait j'avais peut-être une date de péremption et que fallait que je reprenne le droit chemin. J'ai rencontré quelqu'un avec qui ça a été passionnel dès le départ. Et puis très toxique très rapidement. Il était célibataire sans enfant. Puis finalement, il était marié avec des enfants. Et puis de extraordinaire, il est devenu infect. C'était une mauvaise personne qui m'a rendue faible, qui m'a rendue à sa merci, complètement dépendante de lui. Il le savait très bien que j'avais été escorte un temps dans ma vie. Ça venait souvent lors de disputes, de toute façon tu n'es qu'une pute, etc. Voilà. Et puis j'ai réussi à reprendre le dessus et à me sortir de cette relation avec pertes et fracas. Hein. Dans l'appartement où nous sommes aujourd'hui, c'est chez moi, c'était à mon nom. Il avait les clés, bien sûr, et un jour, je suis rentrée du bureau, et il n'y avait plus rien. Il n'y avait que le matelas par terre, et il avait tout pris. Il m'a laissé comme ça, avec un petit mot. J'imagine que c'est très dur de rentrer chez soi et de voir qu'il n'y a plus rien. Et puis je me suis dit, en fait, je préfère ne plus rien avoir, m'être libre. Donc je lui ai tout, j'ai rien réclamé, je lui ai dit, vas-y. Et il a fallu beaucoup d'années pour que je réussisse à le sortir de ma vie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, finalement, j'étais beaucoup plus heureuse quand j'avais des rencontres tarifées. Et facilement, j'ai décidé de reprendre ce chemin. C'est une vie que j'aime. J'ai retrouvé ma joie de vivre, mon côté pétillant, libre. Ça ne peut pas être que ça ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir des projets professionnels à côté. Mais en tout cas, quand j'ai pas envie d'amour, je trouve que c'est le meilleur moyen pour ne pas être déçu des autres.
C'était La vie ordinaire de Mathilde Escorte, un reportage de Valérie Borst réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Mathilde d'Avril, à sa mère, à Pauline André de France Bleu Pays de Savoie. Je signale que Mathilde d'Avril évoque son parcours dans un livre publié aux éditions Max Milo et intitulé 300 de l'heure, le prix de ma liberté. Il est sorti en 2022. C'est Zoé Coupé, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Hortense Martin, notre stagiaire.
Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il est essentiel d'en maîtriser les mots.
Guillaume Erner.
C'est pourquoi Les Matins vous propose un hors-série, un podcast où les meilleurs spécialistes de la région donnent un sens plus précis aux mots de ce conflit.
Hors-série, Les Matins de France Culture. Israël-Palestine, les mots de la guerre.
À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.